Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour l'Afrique, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Il est 6h temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 21 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriac et Anne Alberton. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, la RCA, pas de trêve pascale. Des combats ont été signalés ce week-end entre Ex-Elika et Anti-Balaka. En Algérie, les réactions continuent suite à l'attaque contre les forces de sécurité à Ibou Draren.
Ce sont des terroristes qui ont peut-être une tendance islamiste, mais même cette tendance pratiquement n'existe plus, ils n'ont plus cet habit d'islamiste.
Dans l'est de la RDC, les armateurs sont en grève sur le lac Kivu.
Plus de 1400 tonnes de vivres et autres effets de première nécessité à destination de Bukavu traînent depuis une semaine au port de Goma. Les produits pourrissables sont jetés chaque jour dans le lac Kivu.
La fête de Pâques a été célébrée un peu partout à travers le monde. Nous partirons à la rencontre de fidèles ivoiriens. Naufrage du Séoul en Corée du Sud. Les plongeurs continuent à retirer les corps du ferry qui a chaviré la semaine dernière. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
Pas de trêve pascale dans plusieurs régions de la Centrafrique. Des combats ont été signalés ce week-end entre Ex-Elika et Anti-Balaka. Les affrontements ont repris hier à Grimari, à mi-chemin entre les villes de Sibut et de Bambari, après plusieurs jours d'accalmie. Une première attaque en force des Anti-Balaka contre la localité avait déjà été repoussée par les Seleka ce mois-ci. D'autres accrochages ont opposé les deux camps rivaux ce week-end près de Dekoa, localité située entre Sibut et Kagabandoro. Des combats qui auraient fait au moins 4 morts, selon des volontaires de la Croix-Rouge locale.
En Algérie, les réactions continuent ce matin suite à l'attaque de samedi contre les forces de sécurité à Ibou Draren, à 120 km à l'est de la capitale. 14 personnes ont péri dans l'attaque attribuée à des militants islamistes. Les victimes revenaient d'une mission liée à l'élection présidentielle de jeudi. Chérubin Dorsil a joint le journaliste Mustapha Abdelli, directeur de l'information à l'agence de presse APS.
Personne ne le saura, ce sont des terroristes qui sont peut-être montés il y a très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, qui ont peut-être une tendance islamiste, mais même cette tendance pratiquement n'existe plus, ils n'ont plus cet habit d'islamiste. Ce sont des terroristes, c'est que lorsqu'on veut nuire à la paix, à la stabilité, lorsqu'on tue des gens, des innocents, ça c'est du terrorisme.
Quelle a été la réaction en général à la réélection du président Bouteflika ?
Vous avez vu peut-être des images où les Algériens ont pratiquement fêté la victoire de Bouteflika dans les rues. Mais il y a eu quand même cette fois-ci la présidentielle où il n'y a pas eu beaucoup de participation. Il y a eu 51% vers 70%.
Est-ce que c'est parce que la victoire de M. Bouteflika était pratiquement assurée d'avance ?
Non, mais il y avait quand même un groupe de partis qui ont appelé au boycott. Il ne faut pas oublier, même si peut-être ils n'ont pas un impact important sur la société, mais ça a fait l'effet qu'ils ont voulu.
Le journaliste Mustapha Abdelli joint à Alger.
En Égypte, deux candidats s'affronteront à l'élection présidentielle du mois prochain. L'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi et l'homme politique de gauche Hamdine Sabahi sont les seuls à respecter le délai du 20 avril pour soumettre leur dossier à la commission électorale. Selon les responsables, le général Sissi a soumis près de 200 000 signatures à l'appui de sa candidature, tandis que Sabahi, qui a terminé troisième au scrutin de 2012, en a remis environ 30 000. La loi électorale exige 20 000 signatures. La liste officielle des candidats sera annoncé le 2 mai et le vote est prévu pour les 26 et 27 mai.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Avec l'annexion de la Crimée et l'agitation pro-russe dans l'est de l'Ukraine, Moscou cherche peut-être à restaurer l'Union soviétique. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk, alors qu'une trêve pascale semblait tenir à peine hier dimanche. Chérubin Dorsil.
De Kiev, le chef du gouvernement ukrainien a fait cette déclaration à l'émission Meet the Press sur la chaîne américaine NBC par visioconférence. M. Yatsenyuk s'est dit préoccupé par ce qu'il croit être l'objectif ultime de Vladimir Poutine. À mon avis, dit-il, le plus grand désastre de ce siècle serait le rétablissement de l'Union soviétique sous les auspices du président Poutine. Auparavant, la Russie avait réagi à une fusillade meurtrière dans la partie orientale de l'Ukraine qui a mis fin à une trêve. Les échanges de tirs à un poste de contrôle tenu par les séparatistes pro-russes près de la ville de Slaviansk ont fait au moins 2 morts. L'origine de l'incident n'est toujours pas claire. Le gouvernement russe se dit scandalisé et accuse l'Ukraine de manquer de volonté pour maîtriser et désarmer les nationalistes et les extrémistes. Kiev avait annoncé la suspension de ses opérations antiterroristes dans les villes occupées par les militants pro-russes à l'occasion des fêtes de Pâques. Cela devait aussi favoriser la mise sur pied d'une mission spéciale visant à désamorcer les tensions dans l'est de l'Ukraine.
Naufrage du Sewol en Corée du Sud, les plongeurs continuent à retirer les corps du ferry qui a chaviré la semaine dernière. Les autorités ont publié des comptes rendus des conversations de l'équipage. Ces documents indiquent que le personnel à bord a hésité à ordonner aux passagers d'abandonner le navire. Il apparaît pourtant que les services de trafic maritime avaient demandé leur évacuation alors que des navires étaient en route pour les secourir.
Le capitaine explique qu'il n'a pas ordonné l'évacuation immédiate, craignant que les passagers ne soient en danger à cause des courants et de la température de l'eau, qui n'était que de 10 degrés environ. Le capitaine a pourtant été l'un des premiers à avoir quitté le ferry. Ce ferry transportait 476 personnes. Pour l'heure, on ne compte que 174 survivants. L'opération de sauvetage, impliquant des centaines de plongeurs, des navires et des aéronefs, dressait un bilan de 58 morts hier, alors que 246 personnes étaient toujours portées disparues. La plupart des victimes sont des élèves du secondaire.
En Irak, journée de violence hier. Une série d'attaques a fait au moins 14 morts et près de 50 blessés dans le pays. À Bagdad, la capitale, une université chiite a été prise d'assaut par un kamikaze et plusieurs hommes armés, faisant 5 morts et 13 blessés. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais les attaques se multiplient à l'approche des législatives prévues pour le 30 avril. Des activistes cherchent notamment à saper le gouvernement à dominante chiite.
Dans le sud du Yémen, des drones ont attaqué des présumés camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Plus de 30 militants auraient été tués en 2 jours. 3 civils auraient également trouvé la mort dans ces frappes aériennes, estiment les autorités. Pour l'heure, on ne sait pas qui est à l'origine de ces attaques. Les États-Unis procèdent régulièrement à des frappes aériennes au Yémen contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Cette branche locale de la nébuleuse islamiste est considérée par Washington comme étant la plus active au monde.
En Afghanistan, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Abdullah Abdullah, est toujours en tête du scrutin présidentiel, selon les résultats partiels fournis hier dimanche. Mais il est loin d'obtenir la majorité absolue, Jean-Roger Bion.
L'ex-chef de la diplomatie afghane devant son rival Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah totalise 44,4% des voix contre 33,2% pour Ashraf Ghani. Les deux candidats arrivent ainsi en tête de ce scrutin pour lequel 8 candidats s'étaient présentés pour prendre la succession du président Hamid Karzai. Près de la moitié des 7 millions de bulletins ont été dépouillés. Les résultats définitifs du premier tour sont attendus le 14 mai. Un second tour sera nécessaire si aucun des candidats ne totalise plus de 50% des voix. La Constitution a empêché le président Hamid Karzai de briguer un troisième mandat. Il est en poste depuis que les forces américaines ont chassé le gouvernement taliban en 2001.
Dans la joie du Christ ressuscité, comme disent les chrétiens, la fête de Pâques a été célébrée cette année un peu partout à travers le monde. Devant des milliers de pèlerins, le pape François a prié pour la paix dans plusieurs régions, particulièrement en Ukraine, en Syrie, en République centrafricaine et en Irak. Pour un résumé de l'homélie du Saint-Père, écoutons Albert Mianzoukouta de Radio Vatican.
Un ton, un discours qui a été assez prégnant, puisque le pape a fait prier, par exemple, pour les victimes du virus Ebola en Guinée, Sierra Leone et Libéria. Il a fait prier pour que cessent les combats au Sud-Soudan. Il a parlé de la République centrafricaine et des violences religieuses terroristes au Nigeria pour l'Afrique. Mais il a également saisi cette occasion pour saluer à sa manière les orthodoxes qui, vous le savez, cette année célèbrent la fête de Pâques le même jour que les catholiques. Et il n'y avait pas plus précis pour parler de cela que l'Ukraine, un pays à forte connotation orthodoxe, Là aussi, il a appelé les différents acteurs ukrainiens et internationaux à savoir tirer du courage que Dieu leur donne pour ramener ce pays vers la paix.
Et puis des centaines d'étudiants et de manifestants anti-gouvernementaux ont profité du dimanche de Pâques pour la résurrection de la démocratie au Venezuela. À Caracas, la capitale, les manifestants ont brûlé des effigies du président Nicolas Maduro, criant qu'il voulait se débarrasser de lui et l'envoyer à Cuba. Ces manifestations anti-gouvernementales persistent depuis février dernier.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. Depuis une semaine, aucun bateau de transport de marchandises ne navigue sur le lac Kivu. Les armateurs sont en grève pour s'opposer au paiement de la taxe exigée par le gouvernement du Nord Kivu sur l'embarquement des marchandises en provenance de Goma vers Bukavu. Les conséquences sont énormes dans les deux provinces sœurs du Nord et du Sud Kivu. Depuis Goma, le reportage de Primo Pascal Rudaikwa.
Plus de 1400 tonnes de vivres et autres effets de première nécessité à destination de Bukavu traînent depuis une semaine au port de Goma. Les produits pourrissables sont jetés chaque jour dans le lac Kivu. Les commerçantes qui font le trafic entre Goma et Bukavu passent la nuit à la Belle Étoile. Elles ne savent pas rentrer sans marchandises.
C'est vraiment dur ce que nous vivons ici. Tous sommes des locataires. Nos histoires sont pourries dans les bateaux. Comment nous allons vivre? Ne pensez-vous pas que les hommes qui nous ont prêté l'argent vont nous amener en prison centrale et nos enfants vont vivre comment? C'est vraiment pitoyable. Nos enfants sont devenus des maïbobos. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de souffrir.
Le secrétaire général de l'Association des armateurs du lac Kivu, Asalaki en sigle, Prudent Pama, déplore le comportement des autorités du Nord Kivu qui exige une taxe qui ne les concerne pas.
Il y a eu une nouvelle taxe intitulée « Taxe de déchargement et déchargement des produits manutentionnés dans les ports ». Les redevables de cette taxe, ce n'est pas les armateurs, ce sont les manutentionnaires. C'est une taxe qui concerne la manutention dans les ports. Et nous ne la percevons pas, nous ne pouvons pas la payer parce qu'elle ne nous concerne même pas. Nous avons pensé que le pouvoir du Nord Kivu devait organiser les manutentionnaires pour percevoir sur eux. Mais malheureusement, injustement, il nous dit que c'est nous qui devons payer cette taxe.
Ces armateurs, accompagnés de quelques membres du gouvernement provincial du Sud Kivu, ont tenté de rencontrer le week-end les autorités du Nord Kivu.
Nous avons été en pourparlers avec le gouvernement du Nord Kivu. C'est le gouvernement provincial du Sud Kivu qui avait initié les dialogues qu'ils ont appelé dialogue social avec le gouvernement du Nord Kivu. Malheureusement, malgré la présence du gouvernement du Sud Kivu, représenté par le ministre des Transports et Voies de Communication, le ministre des Finances et leurs experts, nous avons trouvé qu'il y a une mauvaise foi.
Ces transporteurs n'ont aucune raison de faire la grève, explique le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou.
Les opérateurs économiques, je dois le dire, il faut publier ça. Ils n'ont pas de raison de faire la grève parce que ce n'est pas eux qui nous payent les impôts. C'est vous, la population, qui payez. Parce que cet impôt-là que nous faisons payer aux opérateurs économiques, ils la mettent sur le prix de revient de la marchandise et nous, la population, c'est nous qui payons cette taxe-là.
Les armateurs en grève pensent qu'il faudra l'intervention du gouvernement central pour départager les deux camps. Goma, Primo Pascal Rudaikwa, La Voix de l'Amérique.
La fête de Pâques a été célébrée un peu partout à travers le monde. Nous partons en Côte d'Ivoire, en région Baoulé. Au moins 2000 cars chargés de passagers ont fait le déplacement vers le centre du pays. L'occasion de réfléchir sur des actions de développement dans leur village et procéder à l'inauguration de quelques réalisations. De Boaké, voici la correspondance de Germaine Dry.
La résurrection du Christ chaque année donne l'occasion aux ressortissants des régions du centre de la Côte d'Ivoire de se retrouver soit pour régler des problèmes fonciers, soit pour penser au développement de leur village. À Boukébo, dans le département de Boaké, l'inauguration d'un centre de santé et l'installation d'une coopérative de vivriers de femmes ont constitué les grandes articulations de cette fête annuelle. Avec ce centre de santé, le président de la mutuelle compte multiplier les efforts pour soulager les populations du village. Docteur Kwadio Kofi venir.
Nos parents ne devraient pas supporter seuls le coût du traitement. C'est pour cela que nous sommes en train de batailler pour avoir des médicaments, des partenaires, de manière à ce que un médicament qui coûterait 100 francs, mais que ça puisse revenir à 30 à 40 francs à nos parents.
Jacques Assaouré Konan, cadre du village, qui a coordonné la construction de ce centre de soins, pense qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin.
Les projets sont immenses pour un village comme le nôtre qui manque de presque tout. Notre prochaine action, c'est de réhabiliter le Gouaré, notre symbole. On se compare à la Tour Eiffel, mais il faudrait qu'il soit présentable. L'autre, c'est de désenclaver l'acte qui relie notre village au chef-lieu de préfecture, qui est Botro.
Le centre du pays est une zone productrice de vivriers. Les femmes qui travaillent en coopérative dans ce secteur ont sollicité le soutien de la fédération qui a pris l'engagement de les accompagner. Irielou Colette, présidente de la Fédération des femmes du vivrier de Côte d'Ivoire.
Nous allons les accompagner pour produire et nous allons même les aider avec les autorités pour avoir un marché, construire un hangar au moins où la production peut venir et puis les gros camions peuvent venir chercher à bouquer pour.
Pakinou, dans cette partie du pays, est définie comme une période de retrouvailles. Kwame Konan Sikan, commerçant.
Avant, c'est janvier que les Baoulés connaissaient en Côte d'Ivoire. Pakinou, avant, c'est les gens qui vont à l'église. Tout dernièrement, les Baoulés ont calculé que le moment de Pakinou, il y a moins de travaux tempêtes. Moment où ils ont le temps de venir au village. Nous, on devient une fête nationale.
Certaines personnes donnent une autre raison pour ce changement. Brougeant, président de la mutuelle de Clémécro.
En ce moment, nous venons vers nos villages pour présenter le fruit de nos travaux et puis nous consacrer au développement du village et au règlement de problèmes de nos familles respectives. La coïncidence avec la fête de Pâques, en tant que fête chrétienne, nous sommes dans la ligne de considérer que nous sommes véritablement des enfants de Dieu.
Le caractère religieux de Pâques n'est pas totalement oublié. Albert Dibikwasi, député de Diabo, Languibono.
Pâques, nous venons aussi pour ressusciter avec Jésus-Christ et développer nos régions.
La fièvre Ebola étant à nos portes, Pakinou 2014 s'est faite sans des menus habituels. Le gibier absent des plats n'a pas altéré l'ardeur des populations. Pour Éloi Asset, la santé avant tout.
C'est vrai que manger de la goutti, c'est agréable. Mais manger de la goutti maintenant et perdre sa vie demain, je pense que le choix est très vite fait.
Germain Dri, Boaké, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Togo, le gouvernement élabore sa stratégie de développement pour les 15 prochaines années. Le concept Vision Togo 2030 entend mettre à profit les atouts dont dispose le pays. L'objectif, faire du Togo un pays émergent en 2030. De Lomé, le reportage de Kayi Lawson.
Faire du Togo un pays émergent dans 15 ans, tel est le nouvel objectif que se sont fixés les autorités togolaises. Baptisé Vision Togo 2030, c'est un concept qui consiste à élaborer un plan de développement du Togo à l'horizon 2030. Professeur Kakonu Boukbon, ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques.
Pour le gouvernement, il s'agit de l'émergence du Togo dans le cadre d'une croissance forte, inclusive, créatrice d'emplois et d'une démocratie exemplaire. Mais ce qui compte, c'est ce que pense l'ensemble des Togolais. Et c'est pour ça que nous pensons que le processus est aussi important que le produit. Et donc, il s'agira pour nous de faire en sorte que les Togolais parlent aux Togolais. Au-delà des clivages politiques, des contingences électorales, il faudra que nous construisions ensemble le Togo de demain, dans lequel toutes les filles et tous les fils du Togo puissent se reconnaître.
La première activité publique de Vision Togo 2030 s'est tenue les 15 et 16 avril dernier à Lomé. Il s'agit d'un séminaire de concertation des acteurs sur cette planification à long terme. Djogbe Lawson Hecheli, macroéconomiste au ministère chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques à l'issue des deux jours de travaux.
Cela nous a permis, tout ensemble, de mettre en place une feuille de route pour que dans les 15 ans à venir, le Togo soit un pays émergent. Donc ceci, ce n'est que le début du processus. Après, il y aura la mise en place du cadre institutionnel qui sera suivi de l'élaboration des scénarios. Et ces scénarios passeront du plus optimiste vers les scénarios les plus pessimistes.
Le Togo peut-il atteindre l'émergence en 2030? Voici le point de vue de Magaï Dia, le chargé de développement du secteur privé et du secteur financier pour la Banque mondiale au Togo.
Le Togo émergent en 2030 reste quelque chose qui est à portée de main. Le Togo, géographiquement pas très grand, aujourd'hui avec une population de 6 millions, des ressources naturelles et une position stratégique très enviable, un port qui marche très bien. Je pense qu'avec un cadre de politique cohérent, il est possible d'atteindre l'émergence en 2030.
Chacun a sa définition de l'émergence. Pour certains économistes, un pays émergent est celui qui a une croissance à deux chiffres. Mais pour le Premier ministre togolais, il faut y adjoindre la bonne gouvernance et le respect des libertés fondamentales. Artem Aoumezounou, lors de son discours de lancement de Vision Togo 2030.
La Vision 2030 doit continuer à aider notre pays à se hisser parmi les pays bien gouvernés et soucieux du bien et de la population. Certains diront les pays émergents, mais pour nous, l'émergence n'est qu'une étape. Il n'est qu'un passage, il ne saurait être un objectif final ni une fin en soi. Cette vision ne peut réussir que si elle offre aussi les garanties d'une protection des droits individuels et collectifs et des libertés publiques. Mais elle doit aussi donner les moyens à l'État de maintenir l'ordre public, de lutter contre les comportements libertaires qui sont autant d'entraves à la cohésion nationale et qui deviennent par voie de conséquence des comportements liberticides.
Ce processus enclenché se veut participatif tout en prenant en compte les secteurs prioritaires qui ont un réel impact sur l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Le Congo-Brazzaville, pays producteur de pétrole, s'attend cette année à une nette remontée de sa production en chute depuis 2012. Ceci grâce à la mise en exploitation de nouveaux gisements. Mais sur le marché local, les populations peinent à se ravitailler. De Brazzaville, le reportage de Nguelan Goussou.
Les 95 millions de barils de brut attendus cette année au Congo-Brazzaville pourront constituer un espoir pour des millions de consommateurs locaux qui n'ont toujours pas de pétrole lampant.
C'est le pétrole qui est rare. Même la livraison, on livre le pétrole, c'est des périodes, mais qui ne sont pas respectées. Donc aujourd'hui, on peut livrer. Il faut encore attendre plusieurs mois, par exemple, pour qu'on livre.
Maman m'a commandé acheter du pétrole, mais comme il n'y en a pas, je veux lui rendre son argent. Comme il fait soir, je ne sais pas comment faire mes devoirs.
Le pétrole lampant et le gaz, aujourd'hui des panacées aux coupures intempestives d'électricité, manquent toujours dans les points de vente. Certains vendeurs dans les stations-services et d'autres commerçants à la cité ont constitué des réseaux de spéculation et de surenchère du pétrole lampant.
C'est devenu un réseau. Les pompistes revendent le pétrole, mais les prix sont fixés par eux-mêmes. Généralement, soit c'est les hommes politiques qui achètent déjà des sternes, et au niveau de la station, c'est quelques litres qui arrivent. Et lorsqu'on revend, pas tout le monde, quoi, qui généralement c'est difficile qu'il accède au pétrole.
La réalité, c'est que 41% des produits pétroliers consommés au Congo-Brazzaville viennent de l'étranger. La raffinerie congolaise n'est toujours pas au mieux de ses capacités depuis une décennie. Elle ne produit encore que 850 000 tonnes dans une masse de besoins de près de 2 millions de tonnes. Mamadou Nimaga, le directeur de la raffinerie du Congo, annonce pourtant une nette amélioration dès l'année prochaine.
Sur le marché congolais, puisque la demande est supérieure à la production de la raffinerie. Donc la CNPC importe des produits pour compenser. Il suffit seulement qu'un bateau vienne en retard pour qu'il y ait pénurie, puisque toute notre production est consommée immédiatement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on fera la deuxième phase, les besoins du Congo seront couverts et on fera des investissements au moindre coût pour une rentabilité maximale. Parce qu'il faut que la Corap soit gérée comme une société privée.
Nguelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Place au sport avec Jean-Roger Billon. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Morgane.
On a joué ce week-end les matchs de barrage de la Coupe de la Confédération. 8 rencontres étaient au programme.
Un Canada de Zambie a été tenu en échec par CA Bizertin de Tunisie, 0-0. À la Ligue d'Égypte a pris le meilleur sur Difa El Jadida du Maroc sur le plus petit des scores, 1-0. AS Real est sortie victorieuse du duel malien, 2-1 face au Djoliba. AC Léopard du Congo a dominé à Brazzaville Medeama du Ghana, 2-0. La SEC Mimosa d'Abidjan a réussi son déplacement en Afrique du Sud. Les Ivoiriens ont dominé Kaiser Chiefs, 2-1. Coton Sport de Garoua, le représentant camerounais, a battu le Petro Atlético d'Angola, 2-1. Oroya de Guinée, neutralisé à Conakry par l'Étoile du Sahel de Tunisie, 0-0. Et le Sewe Sport de San Pedro de Côte d'Ivoire s'est imposé face à Bayelsa United du Nigeria, 2-0.
Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Mauritanie bat l'île Maurice et se qualifie pour les phases éliminatoires.
Victorieux chez eux 1-0 il y a une semaine, les Mourabitoun ont également remporté la deuxième manche disputée hier dimanche après-midi à Curepipe face aux 11 Mauriciens. Les deux buts mauritaniens ont été inscrits à la 23e minute par le défenseur Demba Sow et pendant le temps additionnel à la 92e minute de jeu par Moulay Ahmed dit Bessam. La Mauritanie se qualifie donc, vous l'avez dit Morgan, pour la suite des éliminatoires dont on suivra le tirage au sort le 27 avril au cours d'une cérémonie qui aura lieu au Caire, au siège de la Confédération africaine de football.
Tennis, le Suisse Stanislas Wawrinka remporte le tournoi de Monte-Carlo.
Il a battu hier dimanche à Monte-Carlo au cours de son premier Master 1000 son compatriote Roger Federer 4-6, 7-6, 6-2. Longtemps cantonné au second rôle, Stanislas Wawrinka réalise une incroyable année 2014, marquée par son triomphe inattendu à l'Open d'Australie en janvier, son premier titre du Grand Chelem et son accession à la troisième place mondiale.
Et on finit sur le basket avec le championnat américain de la NBA. Dallas San Antonio 85-90, Charlotte Bobcats Miami Heat 88-99, Washington Chicago 102-93. C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. Un tube planétaire, un clip diffusé sur tous les écrans du monde avec Happy, Pharrell Williams, a fait très fort. Il pourrait cependant aujourd'hui être victime de son succès à cause des soupçons de plagiat. On écoute ce matin la chanson préférée de Morgane, Happy.
L'évoquait à l'instant, hein. Récemment, le chanteur-compositeur Pharrell Williams a été accusé de plagiat par la danseuse Anne Marsen.
Exact, Morgan. L'accusation de plagiat a été relayée par le site Spin et le blog du Monde Big Browser. Et effectivement, lorsque la danseuse Anne Marsden offre de comparer des séquences de son film avec des extraits du clip de Pharrell Williams, la ressemblance saute aux yeux. Alors, coïncidence ou vol qualifié, nous le saurons prochainement, Morgan.
Pharrell Williams, Happy. Merci, Roger.
De rien, Morgan. Bonne journée.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec au micro. Je vous souhaite une excellente journée.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.